que je veux apporter avec tous et chacun. Et le thème vient pour vous mettre en contexte, simplement, Trevor, il m'a appelé et il dit « Tu veux-tu prédicatiser? » Qu'est-ce que c'est ça? « Tu veux-tu faire le message à un moment donné dans le mois d'août? » Ben oui, OK. Il me dit « Puis le thème, ben, tu peux parler de ce que tu veux. » OK. Mais encore. Fait que là, le premier projet, première chose à faire, c'est de se trouver un thème. Et la première chose, c'est que j'ai voulu réfléchir à plein de points. Et une image que je vais vous partager est un peu le but de mon thème d'aujourd'hui. Et donc, c'est une télésérie de Walking Dead. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu sûrement. Ça a été très populaire il y a quelques années. Ou ça l'est encore, je ne suis plus. Et un des seuls épisodes que j'ai vu explique c'est quoi. Et je voulais vous le partager parce que c'est un peu, vous allez voir, juste en vous l'expliquant, pourquoi est-ce que ça a été un peu le but de mon thème ce matin. Donc, simplement vous mettre en contexte, c'est The Walking Dead, c'est une série qui se passe dans un monde post-catastrophe où un parasite parasitise les humains. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que les gens deviennent comme des zombies. Oui, j'invente des mots ce matin. Donc, les gens deviennent tout simplement un peu comme des zombies. C'est un parasite qui s'empare de eux, va dans leur cerveau et s'attaque à tous les systèmes moteurs de votre corps. Donc, votre cœur arrête de fonctionner, votre système nerveux ne marche plus, vous devenez mou. Et quand tout ça arrête de fonctionner, eh bien, on meurt. C'est la première phase. La personne meurt à cause du parasite. La deuxième phase, c'est que le parasite prend contrôle du système nerveux et moteur de la personne et les fait simplement errer sans but et ils deviennent des zombies. Pour ceux qui ont déjà vu c'est quoi un zombie, ça ressemble à ça. Donc, un beau thème, hein? Ça va être le fun. Mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, aussi bizarre que ça peut paraître, parce que pour moi, ça l'a été comme un point qui m'a fait réfléchir sur est-ce que moi, je suis un chrétien parasité, zombifié par le monde? C'est ça ma question. C'est sur ce point-là ce matin que je veux qu'on réfléchisse. Première question, et c'est la question que tout le monde se pose dans cette espèce de série-là, j'ai vu 7 épisodes, vous donner une idée, là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais est-ce que ces gens-là sont morts ou sont vivants? Parce qu'ils bougent, mais est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que le fait d'avoir une capacité motrice, une capacité d'agir, fait de moi quelqu'un de vivant? Et c'est ce que je veux qu'on regarde ensemble, mais ça va plus loin que ça. Il y a tellement de choses que je veux vous amener ce matin, et ma femme a dit, concentre-toi donc sur quelque chose, tu fais 42 points. Donc, c'est ce que je vais faire. Sur le point que j'aimerais simplement vous amener à observer l'œuvre de Dieu à travers la parole. Qu'est-ce qui fait que Dieu agit? Pourquoi est-ce que l'Éternel fait certaines choses pour nous, dans la création, dans le rachat d'Israël, qui est une tribu de rien pantoute, dans le rachat de nos vies? Qu'est-ce qui fait que la main de l'Éternel bouge? Pourquoi est-ce que l'Éternel agit d'une telle façon et non d'une autre façon? Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu et pas nous? Et pourquoi est-ce que, dans sa perfection, Dieu nous tient responsables de chacune de nos décisions? Une fois qu'on va avoir fait un peu ce survol-là, parce que tous les points que je vous ai nommés, c'est un message chaque, mais c'est pas grave, on va simplement les regarder ensemble. Et afin d'y arriver, je veux vous lire le texte qui est ma conclusion. Hein? On commence par la conclusion. Et ensuite, on va partir et je veux vous montrer quelques principes bibliques et théologiques qui vont vous amener peut-être à voir le salut et l'Évangile d'une autre façon que Dieu m'a aimé et il est mort pour moi. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Le salut est un plan éternel, fondé avant la fondation du monde, par un Dieu parfait qui ne fait jamais rien pour rien, qui ne se trompe jamais et qui fait toujours des choses parfaites. Et donc, j'aimerais vous inviter à tourner, si vous avez votre Bible, dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Et pendant que vous cherchez la page, on va mettre ce temps-là entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, on veut simplement s'approcher de toi ce matin et te demander spécialement de nous toucher, de nous parler, Seigneur, que tu puisses faire de nous des êtres qui vont être réceptifs à ta parole, réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux nous enseigner par ces textes, ces versets. Je te prie spécialement d'être avec moi, de me donner les bons mots, les bonnes paroles, Seigneur, de faire que je puisse simplement suivre ce que ton Saint-Esprit a mis sur mon cœur, suivre ta guidance, Seigneur, que tu puisses vraiment être le centre, Seigneur, de nos recherches ce matin, le centre de notre adoration, que tu puisses vraiment toucher nos cœurs, que tu puisses vraiment nous transformer, nous aider à aller de l'avant encore de plus en plus afin qu'on te ressemble, qu'on t'aime, qu'on te connaisse mieux. Et qu'on puisse finir par t'adorer, Seigneur, comme des vrais soldats de Dieu. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et maintenant, Seigneur, sois avec nous pour cette courte période encore spécialement, afin qu'on puisse vraiment tous et chacun en ressortir grandi. Amen. Donc, Jérémie 29, on va commencer au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, ceux qui ont déjà fait un cours avec moi ou qui prennent le temps des fois de discuter, moi, j'aime commencer par le commencement. Donc, je commence tout le temps dans Genèse. Donc, première question que je me suis posée, c'est simplement la suivante. En théologie, on apprend que Dieu est indépendant de nous, que dans la Trinité, ils sont tous et chacun complets, n'ont pas besoin de nous pour vivre, ne sont pas dépendants de rien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se satisfaient. Tous et chacun n'ont pas besoin de rien d'autre. Ils sont parfaits et complets. Et donc, on arrive dans Genèse au chapitre 1, et sans nous poser de questions, sans aucune autre explication, Dieu crée. Dieu crée le monde comme on le connaît. Dieu le fait pour simplement, et là je vulgarise la chose, Dieu fait cet acte créationnel afin de se donner de la gloire. Et vous allez voir, dans le but du message ce matin, c'est de nous amener à nous tourner et à réaliser combien Dieu est glorieux et combien son plan, l'épicentre de toute la création, c'est de donner à l'homme une infime vision de ce qu'il est afin de faire que ça crée en nous une réponse d'adoration, qu'on ne soit pas des zombies spirituels ou, comme on peut l'exprimer, des personnes qui font de l'embonpoint spirituel. Et le but de la création, c'était que Dieu se donne de la gloire. Mais le but principal de la création, c'est pas seulement qu'il se donne de la gloire à travers la nature, les animaux, les oiseaux, l'eau, l'océan. mais c'est l'homme. C'est la création de l'homme qui devient le centre de toute la création de l'univers et de la terre. Et l'homme a la capacité spéciale d'avoir été créé à l'image de Dieu. Et là, on peut perdre notre temps à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire « à l'image de Dieu ». Mais je vais simplement vous donner un léger point. Nous avons une capacité relationnelle avec Dieu et décisionnelle dans nos vies. Nous avons la capacité d'avoir une relation avec Dieu. Elle va être basée sur une acceptation de ce qu'il est ou sur un rejet de ce qu'il est. Des fois, les chrétiens, on se dit « moi, j'ai une relation avec le Seigneur ». On en a tous une, mais à la base, elle est mauvaise. Elle est brisée, elle est déchue. On a tous une relation avec Dieu. Et donc, le principe, ensuite, la deuxième question est pourquoi, dans la création, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Les gens, quand tu parles à des non-croyants ou à des gens qui essaient de comprendre, souvent, c'est la première question qu'ils vous posent. Oui, mais dans le jardin, pourquoi Dieu a mis l'arbre? Il aurait pu pas en mettre. Me semble qu'on serait mieux. Hein? Mais maintenant, on va se poser la vraie question. La création et l'arbre ont été créés pour glorifier qui? Mon nombril, comme dirait Trevor. Mon nombril, moi. L'arbre et la création ont un seul but, glorifier Dieu, celui qui les a créés, celui qui les a faits et celui qui mérite l'adoration pure. Et ensuite vient le premier principe d'adoration qui va être une base de la conclusion. Le premier principe d'adoration est celui d'une obéissance aveugle. Une obéissance, j'aimerais vous faire réaliser une chose que j'ai réalisée récemment. Adam n'avait aucune connaissance du bien ou du mal quand il a pris le fruit. Vous et moi, on se dit, mais il est bien niaiseux, là, désobéir à Dieu, c'est mal. Il me semble qu'il aurait dû le savoir. Il me semble que c'était évident qu'il fallait pas que tu le manges. Et pourtant, j'enlève de votre cerveau la capacité de comprendre que frapper Raph dans le visage, c'est mal. Et pour vous, c'est normal. C'est pas bien, c'est pas mal. Ça me soulage. Lui, ça y fait apprendre que son visage a plein de nerfs. Hein? J'enlève cette capacité-là de votre cerveau, de votre être, de rationaliser le bien et le mal. Et vous allez tous faire comme Adam. Tout le monde, tous et chacun. Donc, le but de la chute est encore une fois planifié par Dieu. Et qu'on n'aime pas ça, entendre ça, hein? La chute vient faire une séparation entre deux types d'adorateurs de l'Éternel. Tout le monde adore Dieu. On le sait, mais on ne veut pas le dire. Soit en ayant la juste condamnation ou de notre plein gré devant sa face à le chercher et à l'adorer. Donc, on doit se poser la question, dans l'ordre créationnel, où la chute, comment la chute peut-elle donner plus de gloire à Dieu? Oui, je vais taponner avec tout ce qu'il y a sur le stage. Comment est-ce que la chute peut donner plus de gloire à Dieu que de se créer des robots mutants qui vont l'adorer constamment? Je ne m'attends pas de réponse. Eh bien, j'aimerais vous amener à réfléchir avec moi sur le point de qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Quels sont ses effets sur ma vie? Est-ce que c'est possible d'être vivant et mort à la fois? Est-ce que c'est possible que dans nos efforts d'évangélisation, on en soit venu à un point où on va diluer Dieu. On va diluer sa personne, sa gloire, afin de ne pas brusquer mon voisin ou la personne avec qui j'en parle. Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère à évangéliser parce que les gens, ils m'écoutent parler à peu près 5 minutes. Puis, que je les énerve. Parce que je n'accepte pas de me faire dire que Dieu est comme ça pour moi, mais pour toi, il peut être différent. Pour toi, ton Dieu saint, juste, pur, tu peux le garder, mais moi, mon Dieu, il m'aime. Puis, il veut que je sois bien. Puis, il veut que... Moi, et là, je fais pas ça devant eux, là. Mais c'est ça, donc, diluer pour moi qui est Dieu en vient à ne pas annoncer l'Évangile. Mais c'est pas vrai, je ne vous dis pas d'arrêter d'évangéliser, là. Je veux qu'on pousse plus loin. Ici, ce matin, je prends en considération que je parle à des gens qui connaissent Dieu. Je prends en considération que Jean 3,16, vous le connaissez par cœur. Si ce n'est pas le cas, prenez 5 minutes, ce n'est pas bien long. Je prends en considération que vous avez vécu quelque chose avec Dieu. Je prends en considération que vous l'avez reconnu comme Sauveur et Seigneur. On va arriver. Christ est l'épicentre, le but de toute la création. Mais je prends en considération que vous savez qui il est et ce qu'il a fait. Sur cette base, on va pousser plus loin, OK? Et donc, on est encore dans Genèse. Quelle a été la réaction de Dieu après la chute d'Adam? Il a poussé de la mauvaise herbe, il a créé les moustiques, il a dit à la femme, tu vas avoir de la misère à accoucher, puis il a dit au serpent, tu vas manger de la terre. C'est fini là? Non. Dieu a dit une chose qui devient clé, qui devient centre, qui devient... Pour moi, tout est central ici, hein? Tabarouette. Mais dans la chute, Dieu a dit une chose. Je vais te susciter un sauveur. Donc, la première fois que l'homme se plante, et on a été excellent pour continuer à le faire, la première fois que l'homme tombe, chute, Dieu dit, je m'en occupe. Pas toi, je m'en occupe. Je vais trouver un sauveur, je vais trouver une solution, parce que depuis l'éternité, je le sais que ça va arriver, puis je le sais que c'est ça qui va m'apporter le plus de gloire. Que ma création, pas moi, non, Dieu, Dieu veut que sa création réalise qui il est et que ses actions sont toujours parfaites. Si je peux rentrer ça dans ma caboche, que les actions de Dieu sont toujours parfaites. Je regarde la création du monde, de l'homme, l'implantation de l'arbre et toutes ses conséquences. Et j'en viens à dire, principe théologique que je veux que vous appreniez tous par cœur, si vous partez juste avec ça, parfait. Dieu est parfait, donc tout ce que Dieu fait est parfait. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose d'imparfait? Non. Donc, tout est parfait. C'est spécial, hein? Dieu est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Rien de ce que Dieu fait est imparfait, donc le monde est parfait. J'ai l'air fou, hein? Est-ce qu'il est parfait pour moi? Non. Est-ce que le péché règne? C'est l'impression qu'on a. Est glorifié à travers sa création? Oui. Est-ce que Dieu est glorifié à travers nos vies? J'espère. L'acte créationnel de Dieu, dans la perfection, inclut tout ce qu'on vit. Et l'ultime révélation de Dieu, on le sait, c'est dans la personne de Christ. Donc, je ne peux pas vous parler de la perfection de Dieu et ne pas mentionner Christ. Une des plus grandes questions qu'un homme ou une femme peut se poser, c'est qui était Christ? Pourquoi était-il si spécial? Puis, que c'est, ça change. Deux mots, que c'est, ça change. Trois. je suis en avant, j'ai le droit de compter comme je veux, bon. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que Christ a changé dans le plan parfait de Dieu? Là, si vous avez écouté, vous allez dire absolument rien. Christ était depuis avant la fondation du monde, prêt à venir et restaurer une chose, notre vie avec Dieu. Et notre vie qui a une capacité décisionnelle de choisir de croire Dieu. Malgré le fait que j'ai la connaissance du bien et du mal. Où je veux m'en aller? Des fois, je ne fais pas de sens. Mais l'arbre dans le jardin donne à l'homme une capacité de raisonner par lui-même. Et cette capacité-là, lorsqu'elle est soumise à la volonté et la gloire de Dieu, est plus pure, plus agréable à Dieu. Cette adoration-là devient plus complète, plus vraie. Et donc, il est impératif que l'homme soit capable de choisir et capable de rejeter Dieu. Et on voit dans la parole, il y a plusieurs versets qui, des fois, on a l'impression qu'ils sont en contradiction. Parce que Dieu contrôle toute chose. Dieu a élu toute chose avant la fondation du monde. Mais Dieu nous tient quand même responsables de chacune de nos actions. Parce que la responsabilité humaine est tout simplement d'adorer Dieu. Donc, je suis responsable d'adorer Dieu dans ma vie. Je suis responsable de le chercher. Je suis responsable de répondre à l'œuvre de Christ. Et c'était quoi l'œuvre de Christ sur terre? C'était quoi son œuvre? C'était quoi son but? Guérir du monde. Montrer c'est quoi être gentil. Dire la plupart des proverbes qu'on dit à nos amis quand ils ont du trouble. Marcher en gougoune avec des disciples. Hein? C'était quoi le but de Christ? À 12 ans, Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Lors de son ministère, Jésus a parlé de repentance. Jésus a parlé de Dieu d'une façon que personne n'a jamais fait avant. Jésus a simplement amené les gens autour de lui à réaliser une chose principale. Vous ne pouvez pas vous sauver. Tous et chacun ici, si Christ n'est pas là, on est tous dans le trouble. Sans Christ, sans son œuvre, il est impossible à l'homme de se sauver. Et à l'arbre. Je l'aime, l'arbre. T'as raison, j'aurais dû choisir l'arbre, chérie. Mais l'arbre, la conséquence qu'on connaît le plus, c'est le salaire du péché, c'est la... Yes. Le salaire du péché, c'est la mort. On va tous mourir. On est tous confrontés à la mort. On n'aime tous pas la mort. Je connais personne qui aime la mort. S'il y en a, ils me le disent pas. La conséquence qui est la mort est pour nous une délivrance. Parce que sans mort, Christ ne pouvait pas racheter l'humanité. Sans mort, Dieu ne pouvait pas se glorifier de la même façon. Sans la mort, Dieu aurait dû simplement détruire Adam et Ève puis recommencer. Mais, comme on a dit, est-ce que Dieu fait des choses imparfaites? Je m'attendais à un non, là. Bon, on va le refaire. Est-ce que Dieu fait des choses imparfaites?
Non!
Yes! Donc, la mort était impérative. Pourquoi? Parce que la mort nous rappelle encore une fois qu'on n'est rien. Et qu'on a été créé pour un seul but, qui est d'adorer Dieu. Et l'adorer, ça veut dire, à travers toute notre vie, tout ce qu'on fait, on a une conscience de Dieu. On a une conscience qu'on est dépendant. La journée où Dieu décide qu'il n'y a plus d'oxygène dans la pièce, je suis mort. Non, je ne le dirai pas. Mais la journée où Dieu m'appelle, je n'ai rien à dire. Fini. Cette mort-là, comme j'ai dit, devient une source de salut pour nous. Parce que Christ, qui lui était parfait, Dieu lui-même est venu souffrir la mort, une mort que personne ici voudrait. Et ce n'est pas la croix qui sauve, c'est la personne sur la croix qui sauve. Ce n'est pas les clous qui font que la croix est horrible, c'est le péché. Et ce n'est pas le fait que Christ ait été tellement saint à la croix, ce n'est pas ce qu'il a dit à la croix, c'est... Ça sort mal, ça. C'est tout ce que Dieu a fait en lui. C'est le fait que cette mort-là ne devait jamais arriver. Christ ne devait jamais mourir. J'ai une question pour vous. Si un homme ne pêche jamais, va-t-il mourir? Hein, c'est que le BA, ils savent, là. Vous regardez, là. Si un homme ne pêche jamais, va-t-il mourir? Non. Car le salaire dû, c'est là. Si j'enlève le péché, est-ce que j'ai une mort? Donc, laissez-moi reposer ma question. Si je ne pêche jamais, est-ce que je vais mourir? Non. Est-ce que ça se fait? Non. Que Christ devait mourir. Christ ne serait jamais mort. Excusez, j'ai mal posé ma question. Christ ne serait jamais mort. Donc, cette mort-là, qui était impossible, vient nous délivrer. Vient changer toute la donne. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est parfait, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, on peut en mettre, là. Mais Dieu est aussi glorieux. Et tout ce qui fait bouger la main de Dieu est ce qui va lui apporter le plus de gloire. C'est ce qui fait que Dieu a créé le monde. C'est ce qui fait que Dieu a mis l'arbre. C'est ce qui fait que Dieu a laissé Adam manger de l'arbre. C'est ce qui fait que les nations se détruisent parce qu'elles ne veulent rien savoir de Dieu. Eh bien, ça glorifie Dieu parce que Dieu a dit, « Si vous ne m'écoutez pas, vous allez vous entretuer, vous allez dépérir. » Vous allez être n'importe quoi. Mais ça, ça glorifie Dieu parce qu'il a raison. Ça glorifie Dieu parce que sa perfection l'avait dit. Le péché ne glorifie pas Dieu. Prenez pas mes paroles pour ça. Le péché ne glorifie jamais Dieu. Mais Dieu peut utiliser un pécheur pour se glorifier. Dieu peut utiliser quelqu'un qui a de la difficulté à l'accepter comme il est pour se glorifier. Dieu peut accepter d'utiliser des tyrans pour faire sa volonté. Quand Babylone s'en venait détruire Israël, là, il y a un paquet de prophètes qui ont dit, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais, Éternel? Pourquoi tu utilises un peuple plus méchant que nous autres? Pourquoi tu laisses le péché régner? Moi, je suis saint, là, j'amène mon bœuf, je mets mes mains dessus, puis là, le sacrificateur le tue, il prend le sang, là, il m'en pitche là en face, puis là, ah, que je comprends tout qui tu es, Seigneur. Pourquoi tu utilises un peuple méchant? Seigneur, pourquoi moi je souffre? Je connais ton fils. J'y ai donné ma vie. Pourquoi est-ce que je ne vis pas parfait, heureux, comme les gens me le promettent dans le sud des États-Unis? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi cette vie-là, elle est difficile? Pourquoi? Parce que Dieu a dit que si le péché était là, on aurait de la difficulté. On aurait des souffrances. On aurait la mort. Regardez mes doigts, là. C'est graffiné sur de la tôle. Ça, là, c'est le péché. Hein? Vous êtes déjà cassé quelque chose? Too bad. Je regarde ma mère désherber le jardin 4 fois par semaine. Péché. Et cette façon d'être est impérative. Elle est obligatoire. C'est fou, hein? Elle est obligatoire parce que... Et là, c'est là qu'on s'en vient dans le message. Yeah, fin de l'introduction. Non, c'est là qu'on s'en vient parce que le but de toute chose, le but du salut et le but du croyant, c'est d'offrir à l'Éternel une adoration qui va être pure. Une adoration qui va venir d'un choix concret, défini, avec ma petite connaissance du bien et du mal qui peut être biaisée par plein de choses que j'ai vécues, de où je viens, de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ma face. Tout peut être biaisé dans ma connaissance du bien et du mal parce qu'elle est imparfaite. Mais mon choix de suivre Dieu, oh, que ça vient changer la donne. Ça vient créer une adoration qui va dire « Oui, Seigneur, dans la souffrance, tu es là. Dans mes difficultés, tu es là. Quand je lutte avec ma chair, que je te cherche, que je t'appelle, que je suis détruit en dedans de moi, tu es là. Et tu m'as averti que ce serait le cas. Quand je choisis volontairement de pécher ou involontairement de pécher, je vais récolter ce que j'ai. Je vais récolter ce que tu m'avais dit. Parce que dans ta gloire et dans ta perfection, c'est ça que tu as cété. C'est ça que tu as choisi. C'est comme ça que tu t'es révélé. Et en tant que croyant, on a accepté plusieurs choses, mais j'ai 3 points. La première chose qu'on a acceptée, c'est notre incapacité de plaire à Dieu. Notre incapacité de nous racheter nous-mêmes ou de faire quoi que ce soit qui va me rendre plus digne de Dieu. C'est le premier point. Et je vous le dis, il commence bien longtemps. Les 2 premiers fils à Adam, 50% de la population mondiale se sont plantés. L'autre 50% sont morts. Taboy. On a une chance, hein? Donc, cette incapacité-là que j'ai à me sauver, c'est l'Évangile. C'est la base. On ne veut pas en parler, là. On veut dire aux gens, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Comme il aime toute sa création. Comme il aime l'état de fumier. Dieu t'aime. Merci. Merci. Dieu a créé la décomposition. Ah. Il aime la décomposition. Oui. Voulez-vous qu'on banalise ou qu'on vulgarise des choses qu'on dit en tant que croyant? Dieu t'aime. Dans ton péché, dans ce que tu es, Dieu t'aime. T'aime comme il aime un croyant. On va parler. L'amour de Dieu pour sa création, à même que Dieu veut déverser en chacun d'entre vous. L'amour de Dieu pour un non-croyant, c'est le même amour qu'il a pour le reste de la création. L'amour qu'il a, je vous l'ai vulgarisé tantôt, là, pour un tas de fumier. Parce que le tas de fumier fait ce que Dieu lui a dit de faire. Se décompose, nourrit plein de bibittes et fertilise son sol. Il fait mieux sa job que moi. Et dans tous mes efforts. Ben, si je le disais en anglais, ce serait bizarre, hein? Mais dans tous mes efforts, ça ne donne rien. J'ai des bonnes nouvelles, hein? Mais on continue. C'est que ça ne s'arrête pas là. C'est la raison qui a poussé Dieu à agir d'éternité en éternité. C'était planifié. Marc-Olivier Martin, 2016. Sera incapable de rien faire qui va me glorifier, qui va me rendre heureux et qui va vraiment le sauver. Mais Dieu a agi. C'est pour ça que Christ était là. C'était planifié avant la fondation du monde. Dieu l'a annoncé pendant 2000 ans. Je vais venir par... Il y a un enfant qui va naître d'une vierge. Je vais venir pour gagner la bataille sur le péché. Je vais m'occuper du péché comme il l'a promis dans le jardin. Il a promis que ce serait un fils à Abraham. Il a promis que ce serait un fils à David. Il a promis qu'il viendrait à Bethléem. Il a promis qu'il s'appellerait Emmanuel. Il a tout annoncé. Il a envoyé une étoile pour dire à tout le monde qui s'en venait. Est-ce que Jésus est né dans une année random, sans but, sans planification? Non. Planifié pour glorifier Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est né? Les anges ont crié dans le ciel. Les anges ont célébré Dieu fait chair. Glorification de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à travers toute la vie de Jésus? Des gens qui ont des vies transformées par Jésus sont appelés à une repentance pure, digne. Cherchez Dieu. Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. C'est ça l'Évangile. C'est pour ça que Christ est venu, parce qu'on est incapable de le faire. Et cette œuvre-là, elle trouve son apogée, son crescendo, appelez ça comme vous voulez, à la croix. Quand Christ, face à la mort, qu'il ne mérite pas, il connaît le cœur de toutes les personnes. Comme il a dit à Pierre, si je voulais appeler 12 légions d'anges, ça c'est 12 000 anges, je pourrais, mais je ne le fais pas. Si vous lisez l'Ancien Testament, un ange peut battre une armée à lui tout seul. Je vais en appeler 12 000. Mais non. Non, parce que Jésus est venu sur terre pour un seul but, mourir. Jésus est venu sur terre parce que d'éternité en éternité, l'objet de notre adoration serait Dieu, le Fils. L'objet de toute ma recherche de vie doit être Christ. L'objet de toute la création est d'amener l'humanité à réaliser que sans Christ, on n'est rien. Sans Christ, je vais glorifier Dieu dans les tourments, dans la souffrance qu'on appelle l'enfer pour l'éternité, parce que c'est ce que Dieu a dit. Le péché égale ça. Le mot méchant qu'il ne faut pas dire, là. Ça vient balancer. L'amour de Dieu vient balancer toutes ces choses. Ne laissera pas l'humanité où elle est. Pied d'avance, préparer une œuvre parfaite. Création, l'arbre, la chute, Christ. Et maintenant, il y a vous, il y a moi. Il y a tous ceux ici, il y a nous là, qui sommes sauvés. Est-ce que mon adoration de Dieu, est-ce que ma recherche active de lui dans ma vie, mon empreinte personnelle, ce que je suis. Il y a juste moi qui est moi, là. Personne ici qui est comme moi, j'espère. Il n'y a personne qui va être comme moi. Pas que je suis meilleur, là. Je suis moi. Personne qui va être comme Jérémie, personne qui va être comme Sarah, personne qui va être comme Pierre, comme Serge, comme Georges, comme Pierrette, comme Joanne. Je nomme toute la rangée en avant, Naomi. Il n'y en reste plus, OK. Il n'y a personne qui va être comme vous. Parce que l'objet de votre salut, vous allez le voir et le vivre d'une façon personnelle. Vous allez vivre cette relation-là avec Dieu et vous allez chanter d'une façon. Vous allez vous exprimer d'une façon. Vous allez lire et comprendre la parole d'une façon. Vous allez être touché par des versets que moi ne me toucheront pas. Et moi, je vais être touché par des versets qui ne vous diront absolument rien. Parce que toute la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger celui qui y trouve toute sa vie. Et donc, le premier changement qu'on a fait, c'est simplement de réaliser cette incapacité-là qu'on avait. Le deuxième changement qui vient, eh bien, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Ça, c'est la troisième personne de la Trinité. Ça, c'est Dieu qui agit en parfaite harmonie avec le reste de la Trinité, le Père, le Fils, afin de nous convaincre qu'on est pécheur, afin de nous convaincre que j'ai besoin de changer de vie, que j'ai besoin de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient en nous et qui nous pousse à chercher activement la gloire de Dieu dans ma vie. Si vous n'êtes pas au courant, c'est le but de votre salut. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez à adorer Dieu avec ce qu'il vous a donné, avec ce que vous êtes, avec ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Être en constant recherche. Excusez. Et C'est là qu'on arrive à mon verset. Le croyant cherche la sanctification. Il cherche son salut en Dieu. Et il le cherche par l'Esprit. Mon premier point, on est tous pécheurs. Et le but de la création nous le montre. Le but de Dieu par la création, c'est de nous amener à réaliser tout ça. Le deuxième point, c'est l'Esprit Saint qui vient, et il est en lien avec le troisième, qui est la sanctification. Mais l'Esprit Saint de Dieu me pousse à réaliser, à demander à Dieu de lui me sauver. Seigneur, ta promesse dans Genèse 3, que tu vas pourvoir un sauveur, fais la mienne. Moi, je le veux. Moi, j'en ai besoin. Moi, je suis rien sans toi. Seigneur, ta promesse que jamais tu ne m'abandonnerais, que jamais tu ne me délaisserais, que jamais tu allais m'abandonner, même dans la plus pire des fournaises, tu allais être là. Même dans la fosse aux lions, tu allais être là. À travers une armée, 10 000 peuvent tomber à ma droite, 1 000 à ma gauche. L'Éternel est pour moi, je me battrai. Je veux faire mienne tes promesses. Mais si je les connais pas, taboy. Moi, là, quelqu'un me donne un AK-47 puis il me dit « Va te battre, là. » Je suis mort en 5 minutes. Plein de choses. Les promesses de Dieu, est-ce que je les connais? Est-ce que je les ai faites miennes? Ou est-ce que j'accepte de vivre comme un zombie en connaissant Jean 3,16 par cœur, puis en connaissant Jean qui dit « Ces choses sont écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça a été écrit pour que j'aie la vie éternelle. Ça a été écrit pour que je sache que je l'ai. Yes, big deal. Je vais vivre ma vie. C'est ça? C'est ça ou il y a juste moi qui est crinqué, là? Je suis peut-être bizarre. Mais c'est plus que ça. Et donc, je veux qu'on soit ensemble. Et le dernier point qu'on va passer vite, c'est que l'Esprit Saint en vous doit impérativement, pour valider sa présence, vous pousser à combattre le péché. L'Esprit Saint en vous doit vous pousser à chercher la sanctification. Ce que vous appeliez bon, vous allez maintenant l'appeler péché. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu vous a parlé. Dieu vous a montré. Et je connais des croyants qui ne lisent pas leur Bible parce que ça leur fait peur. Il va falloir que je change ma vie. Il faut pas que je sois sous. Il faut pas que j'aille avec mes amis moqueurs. Pas le droit de tuer du monde. Oh, ben là, c'est facile, ça. Dieu de tout mon cœur. Faudrait peut-être que je regarde moins la télé. Dieu veut que le sexe soit juste pour le mariage. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne lirai pas ma Bible. Dieu m'aime. Jean 3,16. Wouh! La 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 la. Excusez. Donc, si on met la fondation, et que j'aime ça aller dans Genèse, moi. Bon, si on met la fondation dans Genèse, que Dieu, on va dire ma belle phrase théologique, tout ce que Dieu fait est parfait, rien de ce que Dieu fait est imparfait, donc le monde est parfait, merci. Et que j'ai l'air sénile quand je dis ça, j'aime ça. Mais c'est vrai, parce que ce monde-là nous a donné Christ. Christ nous a montré le Père. Le Père veut que tous et chacun d'entre nous, on soit saints, on soit transformés, on soit comme lui. Et c'est ça l'Évangile. Pas juste une émotion qui vient puis qui me change. C'est une recherche. Et la recherche de Dieu dans ma vie se fait par l'Esprit Saint. Et là, c'est là que je vous donne un truc pratique pour vivre votre vie chrétienne. Et c'est un des secrets qui a été découvert par tous les grands hommes que vous lisez, Spurgeon, William Carey, Martin Luther, tous ces hommes-là qu'on veut leur ressembler et qu'on aimerait ça être comme eux autres, convaincus, capables de me tenir debout devant tout le consul des églises catholiques à dire « C'est pas vrai ça! V'là 92 raisons pourquoi c'est pas vrai, j'aimerais qu'on en parle. »« Ouais, mais si tu viens, on va te tuer. »« Ouais, mais j'aimerais ça qu'on en parle. »« Ouais, mais ils vont te tuer. »« Ouais, mais j'aimerais ça qu'on en parle. » Oui, mais si tu y vas, ils vont t'emprisonner. Oui, mais j'aimerais ça qu'on en parle, puis je vais y aller. Puis pendant que tu y vas, tes amis t'amènent, ils t'enferment pour pas que tu y ailles parce qu'ils vont te tuer. Fait qu'enfermé, tu produis des livres, puis t'enseignes les gens. Ça, c'est être convaincu. Combien d'heures par jour Martin Luther priait? Tu veux essayer un chiffre? Ça dépend de la journée. Là. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quand il était en prison, j'imagine. Il passait ses journées à faire ça. Non, mais il avait découvert que la recherche de Dieu dans ma vie et ses effets ne sont pas un but. Ce n'est pas un but. C'est la vie. Votre vie n'a jamais de fin. Vous n'atteignez jamais le but. Comme dirait Paul, je ne cours pas comme ayant atteint le but, mais je cours afin de l'avoir. Le but de votre vie, c'est de glorifier Dieu par la recherche active de lui dans votre vie, par la recherche active du Saint-Esprit qui vient vous faire bouger, qui vient vous faire avancer, qui vient vous faire enlever des choses dans votre vie. Peut-être que vous luttez avec la porno. Peut-être que vous luttez avec la TV. Hey, celle-là, c'est drôle. Vous regardez 8 heures de télé par jour. Vous lisez votre Bible 15 minutes. Bon deal, hein? Peut-être que vous luttez avec la colère, la rancune, la lâcheté. Peut-être que vous luttez avec bien des affaires. Comment vous faites pour vous en sortir? Il y a un homme missionnaire qui était avec une caravane et il marchait environ 16 heures par jour. Par jour, il allait se coucher, il pouvait dormir environ 8 heures dans la boîte. Il mouillait. Il était dans les zones indonésiennes où il mouille pendant 6 mois par année. Il fallait qu'il passe d'un village à l'autre. Eh bien, cet homme-là, après que tout le monde soit endormi, vers 2-3 heures du matin, se levait, même s'il avait mal, même s'il faisait fret, même si c'était dur, et cherchait Dieu. Des fois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Cherchait Dieu. Parce qu'il était conscient que la recherche active de Dieu va lui apporter une satisfaction que le monde n'aura jamais. Des hommes comme Paul, quand Paul a rencontré le Seigneur, a prié 3 jours. On s'entend que moi, après, mettons, une demi-heure, 3 quarts d'heure, là, j'en ai dit des affaires. Mais je n'ai pas été frappé par l'Esprit de Dieu qui vient. Qui es-tu? Je suis Jésus. Ah, OK, je suis dans le trouble. Frappé comme ça. Je vulgarise, mais il y a une recherche active. Et j'ai des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai essayé, là, je me levais à 5 heures tous les matins, là je lisais ma Bible pendant 1 heure, je priais pendant 1/2 heure, j'essayais de relire ma Bible, puis j'ai pas trouvé de joie là-dedans. J'ai pas trouvé de joie là-dedans, c'était dur. Puis là, je suis tanné, fait que je le fais plus. Est-ce que tu étais guidé par l'Esprit Saint de Dieu? Ta vie était en règle? Est-ce que tu étais là le matin, prêt à tout donner, puis quand tu te virais de bord sur ton ordinateur, tu voudrais jamais me dire ce que tu faisais? Est-ce que le matin, tu y allais, puis là, tu mettais tous tes efforts pour plaire à Dieu? Là. Mais que le restant de la journée, tu allais jouer à des jeux vidéo, parler dans le dos de tes amis, envoyer promener tes clients dans ton restaurant, je sais pas. Je dis plein d'affaires en passant, là. Il y a plein de choses dans notre vie qui viennent. Mais le but, c'est le secret, là, secret en parenthèse, là, c'est écrit dans la Bible. Le secret pour vivre bien et heureux que moi, je veux vous partager ce matin, c'est de rechercher constamment dans votre vie. De le chercher pas juste le matin par mes propres efforts. Moi, si j'en fais des efforts, là, OK, ça arrive pas souvent, mais si je fais des efforts, je peux peut-être me lever une demi-heure plus tôt pour lire ma Bible puis prier. Mais ça m'arrive, moi, de me faire réveiller à 2 heures de la nuit. Ça m'arrive de me faire réveiller à 2 heures de la nuit, puis là, je sais pas pourquoi, mais je peux plus dormir. Premier réflexe, je suis en maudit. Deuxième réflexe, ouais, ben, si tu m'as réveillé, Seigneur, je vais peut-être aller lire ma Bible. Et que là, je suis bien. Là, le Seigneur m'appelle. Là, il me parle. Des fois, c'est le soir avant de me coucher. Il me semble que j'ai eu une journée de bouette. Je m'en vais juste me bercer, parce que je suis comme ça. 26 ans, je me berce déjà. Je vais me bercer, puis je prends ma Bible. Et là, le Seigneur me fait du bien. D'avoir des rendez-vous. Il y a une discipline à avoir, mais pas nécessairement une discipline que tous les jours, légalistiquement parlant, je vais bouger puis m'obliger à le faire. Oui, c'est bon. Oui, ça a un bien-être total. Mais aussi, il faut accepter les rendez-vous du Seigneur. Ceux qui n'aiment pas ça que leur vie soit désorganisée, qui planifient tout 6 mois à l'avance, là, ben Dieu ne marche pas comme ça. Dieu vient vous appeler dans le milieu de la nuit, dans le milieu du jour, à votre travail, quand vous avez envie de frapper votre voisin. Hé, les gars, tu te fais? Ouais. Ça m'arrive tout le temps, là. Ma femme peut en témoigner, là. Moi, il y a des gens que j'ai de la misère à les sentir et que j'ai pas d'amour pour eux. Puis elle me dit tout le temps, oui, mais le Seigneur veut que tu les aimes, puis que, tu sais, peut-être que si tu as un bon témoignage, tu as un bon exemple, peut-être qu'il va vouloir entendre parler de Dieu. Là, tu vas pouvoir y ouvrir la parole. Oui, mais moi, dès que j'y parle de Jésus, la seule affaire qu'il fait, c'est qu'il dit son nom sans le prénom. Puis il me demande de ne pas parler. Ah, ouais, ben, tu sais, faut que tu sois constant. Mais il y a des temps où, moi, je fais une heure le matin, une heure le soir de voiture pour aller à l'école. Dans mon auto, là, il n'y a pas souvent de la musique qui joue. Puis je dis pas que vous devez prier dans votre char, là. Moi, c'est ça. Puis il y a des journées où j'ai de la musique dans le fond, puis c'est malade. Mais il y a des journées où il n'y a pas de musique. Il y a juste moi puis le Seigneur. Je suis bien, je suis rempli. Puis j'arrive, puis c'est rare, mais j'arrive, puis je suis pas bougonneux. J'arrive, puis je suis heureux, je suis content. Il y a des fois où j'ouvre ma Bible, là, puis là, il me semble que je le connais, ce texte-là. Hey, j'avais pas vu ça. Je peux fermer ma Bible, puis je peux prier. Je peux chercher Dieu, chercher l'Éternel. Pas parce que je prie pendant une demi-heure, pendant 15 minutes, mais parce que je prie par l'Esprit. Que je le laisse me guider. Que je le laisse me montrer tout ce que je dois faire. Tout ce que je dois rechercher. Mais ça va juste être actif dans votre vie si vous faites du ménage. Si vous faites du ménage. On est aussi loin que Jésus qui a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
OK.
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi vivre manchot dans le royaume de Dieu que d'avoir tous tes membres et de brûler dans la géhenne. Parole de Jésus. Qu'aucune parole mauvaise, insulte, calomnie, mensonge ne soit nommée parmi vous. Des fois, on est peut-être mieux de ne pas parler. On vit dans un monde de plaisir, de loisir. Tout ce qui se vend, c'est des jeux, du fun. Ça va être le fun, ça va être spécial, ça va occuper ton cerveau. Tous les jeux, les consoles, les films, les séries, les sports, vos chars, les revues, tout pour occuper votre cerveau. Et on est en train de perdre cette guerre-là contre le monde parce qu'on ne lutte pas par l'Esprit Saint. Et que quand on lutte, je le fais par mes forces. Et puis, je perds tellement souvent. Donc, ce matin, le but était pas de vous déprimer, allez sourire, mais le but était simplement qu'on arrive à réaliser que le monde qu'on vit dedans est comme ça parce que Dieu le voulait comme ça. Et que Dieu le voulait comme ça, il se doit d'être parfait. Parce que tout ce que Dieu fait est... On va le refaire. Parce que tout ce que Dieu fait est... Rien de ce que Dieu fait est... Yes, vous avez eu. Donc, le monde dans lequel je vis est... Mon but dans la vie chrétienne est de glorifier Dieu et de l'adorer. Est-ce que c'est facile? Non. Mon but dans la vie chrétienne, le but du salut, le but de Christ à la croix, ne se trouve pas juste dans Jean 3,16. Se trouve aussi dans la glorification d'un Dieu saint, pur, juste. D'un Dieu glorieux qui vous a sauvé parce que votre identité à vous est importante. Votre façon d'adorer, votre façon d'être doit être là pour que Dieu ait la pleine glorification. Et donc, mon appel pour vous ce matin, c'est premièrement, si vous êtes ici ce matin, que vous ne connaissez pas le pardon de Dieu par Christ, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Est-ce que vous essayez de vous sauver vous-même? Est-ce que vous êtes sans espoir face à la mort? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire que Christ n'est pas resté mort. Christ a souffert la mort et il est ressuscité afin de nous donner la vie, afin de nous permettre de glorifier Dieu pour l'éternité, afin de nous donner accès à un amour qui est plus grand que tout. Et donc, si dans votre vie, vous voulez avoir accès à cet amour, vous voulez avoir accès à ce pardon, vous voulez être libéré de tous vos fardeaux, bien, je vous invite à prendre quelques instants, à prendre un temps à vous seul pour lui demander. Parce que, comme Dieu nous dit dans Jérémie 29, il dit, « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous cherchez Dieu, appelez-le, il va répondre. Si vous cherchez Dieu, appelez-le, il va venir vous trouver. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a pour vous. Appelez-le, demandez-le, priez-le, humiliez-vous devant l'Éternel et dites, « Éternel, Dieu, sauve-moi. » Vous êtes un croyant et que vous avez de la difficulté à lire la Bible, à chercher Dieu, chercher sa parole. Je vous encourage à prier Dieu qu'il vous montre par son Esprit Saint comment vous pouvez vous approcher de lui. C'est quoi dans votre vie que vous devez couper? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour avoir cette réponse, cette proximité avec toi? Qu'est-ce que je dois faire? Promission de Paul à l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Ça devrait être la première question dans nos vies. Qu'est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter des amis? Ça va peut-être me coûter que je vais faire moins d'argent. Peut-être qu'il faut que j'arrête de frauder le gouvernement. Peut-être qu'il faut que... Il y a plein de choses qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut que j'arrête de regarder la télé. Peut-être qu'il faut que je fasse plein des affaires. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si je fais rien, il ne m'arrivera rien. Je ne serai pas plus heureux. Je ne serai pas capable d'avancer. Puis je vais me dire, bon, c'est plate être chrétien. Je suis insatisfait. Dieu ne répond pas à ses promesses. C'est n'importe quoi. Mais plus que ça. Donc, si vous êtes un croyant et vous êtes en difficulté avec l'Éternel dans votre vie chrétienne, je vous encourage à vous repentir de ce qui vous détruit et je vous encourage à chercher Dieu, à aller près de lui et à adorer. Et si vous vivez quelque chose de vrai avec Dieu, je vous encourage à l'exprimer, à adorer vraiment Dieu comme il le demande. On va prier, puis je pense que le groupe de musique vient. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, on veut simplement venir près de toi et te dire merci. Merci Seigneur parce que dans ta parole, tu nous parles de toi. Tu nous parles Seigneur de ta personne. Tu nous parles de ce que tu veux faire pour nous. Tu nous parles de ton amour, de ta justice et de ton salut. Aide-nous maintenant à te chercher activement et ardemment dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps qu'il faut avec toi. Aide-nous, Seigneur, à répondre et à chercher par ton Esprit Saint à être plus près de toi. Merci pour ton salut. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour le fait que tu te glorifies dans nos vies. Maintenant, Seigneur, bénis-nous ensemble et aide-nous à te chercher de plus en plus dans nos vies. Aide-nous à t'adorer maintenant par ces quelques chants. Aide-nous à t'adorer par nos vies. Et Seigneur, vraiment, sois béni et glorifié ce matin. Tous ensemble, on dit Amen.